woman.
Bitch. Bitch.
So 5.
Avant le soir, je ne voudrais pas partir trop tard. Cette fois, c'est moi qui cherche une rime avec So Long ou Ciao Bambina.
Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
Un radeau, vous savez comment c'est fait. Il y a des troncs de bois reliés entre eux de manière assez lâche. Si bien que lorsque s'abattent les montagnes d'eau, l'eau passe à travers les troncs écartés. C'est par là qu'un radeau n'est pas un esquisse. Autrement dit, nous ne retenons pas les questions. Notre liberté relative vient de cette structure rudimentaire dont je pense que ceux qui l'ont conçue, je veux parler du radeau, ont fait du mieux qu'ils ont pu alors qu'ils n'étaient pas en mesure de construire une embarcation. Quand les questions s'abattent, nous ne serrons pas les rangs, nous ne joignons pas les troncs pour constituer une plateforme concertée. Bien au contraire. Nous maintenons du projet que ce que du projet nous relie. Vous voyez par là l'importance primordiale des liens, du mode d'attache et de la distance même que les troncs peuvent prendre entre eux. Il faut que les liens soient suffisamment lâches et qu'ils ne lâchent pas. C'est un extrait de « Conversation autour du radeau » de Fernand Deligny, trouvé dans un texte de François Lemieux à propos de la publication indépendante Le Merle, dont nous parlerons un peu plus tard. Je la trouvais toutefois très intéressante parce que les liens du radeau étaient une image pertinente pour conclure cette saison de Radio Atelier, car c'est la dernière fois en 2019 que j'annonce que nous sommes en direct de CIBL, la radio indépendante francophone de Jojage, un territoire Gayen-Gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Vous écoutez la 68e émission de Radio Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors, une embarcation de fortune qui navigue parfois des eaux tumultueuses, qui peut sauver d'un naufrage ou en période de chaos climatique permettre d'échapper à une ville qui coule. La nécessité des liens, c'est une idée qui relie les invités que nous accueillons ce soir. D'abord, nous avons en entrevue Clément de Goljac. Alors Clément, est-ce que tu as déjà dessiné un radeau?
Bonjour. Non, j'ai pas vraiment dessiné un radeau, mais t'as parlé de naufrage et puis j'ai fait mes deux dernières expositions mettaient en scène des naufrages. Alors l'idée du radeau et de l'embarcation de fortune n'était pas loin.
Ben oui, tout à fait. Et en deuxième partie d'émission, on va avoir une table ronde sur les publications indépendantes avec Fougère, qui est constituée de Laure Bourgault et Anne-Marie Trépanier pour Cigale, Marie-Do Saint-Jacques pour Le Laps et de François Lemieux pour Le Merle. Alors bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Benjamin.
Alors, je vais vous demander une question un peu à l'envers. Donc, si vous aviez une chance de rapporter quelque chose d'une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Peut-être Anne-Marie, veux-tu commencer?
C'est à moi l'honneur de commencer. Oui. Écoute, je pense que je rapporterais probablement le son. si ça me prendrait d'abord un dispositif d'enregistrement, mais le son des feuilles qui bouge au vent, ce serait probablement la première chose que je voudrais rapporter avec moi.
Merveilleux, très poétique, Laure Bourgault.
C'est ça. Moi, je pense que ma réponse sera peut-être un peu moins poétique, mais je dirais 2-3 cigales et un pirate.
On dirait une chanson et on continue avec le merle pour François Lemieux.
Pour ma part, peut-être une coupe de fougère. Puis sinon, si les douanes le permettent pas, peut-être une coupe de savoir-faire.
Oui, on a eu beaucoup de choses à apprendre sur une île déserte. Et finalement, Marie-Douce Saint-Jacques, pour le laps, qu'est-ce que tu rapporterais d'une île déserte?
Pour que ça rime,
Attendez, je crois qu'on a un petit problème micro. On va faire une petite transition comme ça.
Moi, ça serait des fruits verts.
Des fruits verts, bien sûr. Ah, ben merci beaucoup tout le monde. Et on va commencer en musique pour nous aider à naviguer cette émission. Nous avons la sélection musicale d'Anne-Marie Trépanier. Donc, Anne-Marie, tu as utilisé le thème de la sorcellerie sonore, mais peut-être pour rester dans le mode et le thème marin, on pourrait parler de sirène. Du moins, c'est ce que laisse sous-entendre la distorsion des voix féminines, la symbiose des modes de production numérique et analogique et la possession auditive. On commence tout de suite avec Anamé, un projet expérimental folk d'Anna Mayberry et de David Psoutkas. Leur musique est nue, délicieusement intime et dangereusement banale. Dream Baby, leur troisième album, est composé de 9 pistes aux sonorités liquides qui traversent les axes du son, des dimensions et de l'expérience humaine. Vous êtes de retour à Radio Atelier. Nous avons en entrevue Clément de Goljac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bien sûr. Alors, Clément, tu es un artiste. Tu exposais d'ailleurs dernièrement à la galerie de Luco. Les maîtres du monde sont des gens. Tu as un doctorat en études et pratiques des arts de l'UQAM. Tu es aussi bien connu pour ton travail comme affichiste et illustrateur. Tu as notamment publié une série de livres graphiques aux éditions Le Cartanier. Bref, tu es très occupé tout le temps. Hein.
Oui. En effet, là, ma pratique se déploie sur plusieurs médiums, oui.
Oui, puis tu utilises une analogie, là, on en parlait en pré-entrevue, une analogie avec le clergé du Moyen-Âge pour un peu faire du sens de toutes les choses que tu fais dans ta pratique.
En effet, c'est une analogie que j'avais trouvée pour ranger un petit peu toutes ces pratiques et puis m'y retrouver. C'est que je m'étais souvenu d'un cours d'histoire où on racontait qu'il y avait un clergé qui était régulier, qui était celui des monastères, dans les moines, qui recopient la Bible, puis qui font des...
Qui vivent en communauté fermée.
Communauté fermée, des exercices théologiques, puis qu'il y avait le clergé séculier, qui était plutôt le clergé des prêtres, qui sont dans la vie des gens, qui
pratiquent
les
mariages,
les enterrements. Et je trouvais que cette analogie, elle pouvait être pratique pour penser mon implication dans le monde de l'art, un monde à la fois régulier, qui serait celui où on réfléchit aux règles de l'art, qui serait le monde du white cube, comme on dit, de la galerie, le monde de l'art conceptuel, de la critique institutionnelle, où on a un jargon particulier, on se comprend entre nous. Certains mots ont un sens particulier dans le monde de l'art qu'ils n'ont pas dans le sens commun. et puis une pratique artistique dont j'ai ressenti très fort le besoin à un moment donné, qui est engagée sur un mode plus séculier, dans un monde plus militant, donc essayer de justement de sortir l'art de son monde, de sa tour d'ivoire, comme on dit souvent, d'ailleurs c'est un reproche qu'on adresse beaucoup au monde de l'art, mais moi que j'ai ressenti de l'intérieur, pas tellement pour répondre à la pression de l'extérieur, mais parce que moi-même je ressentais le besoin de sortir et puis d'accrocher des affiches dans la rue, d'œuvrer dans le débat public.
On va peut-être commencer par là, justement, donc le clergé séculier. T'es connu pour ton implication politique. Les gens qui nous écoutent ont peut-être vu même tes affiches dans l'espace public, notamment avec Extinction Rébellion, un groupe qui s'est fait connaître par le grand public pour avoir grimpé le pont Jean-Cartier en novembre. Donc, est-ce qu'on peut parler justement de cette implication politique? Pourquoi ça a été important pour toi de se tourner vers les causes sociales?
Mais je dirais que ça a toujours été important pour moi, mais que j'avais pas forcément trouvé la manière de le faire dans un premier temps aussi. Puis c'est une pratique qui est née spécialement en 2012 pendant la grève étudiante. Une nécessité de trouver une manière artistique de s'engager dans le mouvement, mais surtout aussi peut-être la clé plastique, si on veut, je l'ai trouvée au moment où je me suis rendu compte que je pouvais être dans la riposte par rapport au discours du gouvernement Charest, et puis de répondre, en fait, juste d'utiliser ce qu'il disait, de le détourner, de le repratiquer, et donc d'œuvrer plus, non pas à désigner, faire le design des mots d'ordre du mouvement étudiant, qui le faisait très bien, mais...
De critiquer.
M'occuper du camp d'en face, en fait, mettre en scène et puis dialectiser un peu les discours du gouvernement Charest. Et puis après, cette pratique-là qui est née en 2012 de la grève, pendant la grève, en fait, je l'ai continuée de loin en loin. Ça m'a donné l'occasion de faire des affiches, par exemple, pour Québec solidaire en 2018. Ils m'ont demandé de faire ça pour leur campagne. Donc ça, c'était plutôt une commande. Mais très récemment, quand le groupe Extinction Rébellion s'est créé à Montréal, en fait, j'ai proposé de faire des affiches pour eux. Donc sur un mode plus militant.
Tout à fait. Donc on a vraiment souvent une image avec un slogan également, court texte qui transmet une idée très précise et très claire qui dénonce des enjeux sociaux. Mais tu as un autre côté de ta pratique, comme on le parlait en début d'émission, c'est le côté artistique. Donc, pour continuer avec l'analogie du clergé, c'est le clergé régulier. Tu produis des œuvres d'art, tu t'intéresses au monde de l'art, et c'est l'endroit où tu prends des détours. Tu donnes pas toutes les réponses, peut-être. Mais tu continues à avoir également des thèmes politiques. Ton dernier travail, c'est sur les naufrageurs dont on parlait en sommaire d'émission. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition-là? Qu'est-ce que c'est comme image, les naufrageurs?
Les naufrageurs, c'est une expo que j'ai fait en 2015 au Centre Vox, qui était une exposition jeunesse. Et justement, je m'étais posé la question de quoi... le Centre Vox m'avait commandé une exposition à l'adresse des enfants, et je m'étais demandé de quoi parler. À ce moment-là, la crise climatique était pas loin, parce que, comme on le sait, une de ses conséquences les plus dramatiques, c'est l'immigration et les naufrages, justement, en Méditerranée. Puis j'avais cherché une manière de... mettre en scène ce phénomène, cet événement, mais sans utiliser l'actualité, sans utiliser la vie des gens.
Des images de personnes qui souffrent ou qui sont déplacées.
Exactement, je l'aurais pas importé dans mon travail comme ça. Donc il a fallu trouver une manière de le figurer. Et puis j'ai fait un détour comme ça par un mythe ancien qui était le mythe de Babel, avec cette idée... mine de Babel que j'ai fait se rencontrer une légende que j'ai trouvée en Bretagne, qui parlait des naufrageurs, qu'il y aurait eu un temps où les Bretons pauvres auraient allumé des feux sur la grève pour égarer des bateaux dans la tempête et les piller. Et je trouvais que ces naufrages d'Européens pauvres, enfin c'est comme dire provoqués par des Européens pauvres, j'ai utilisé vraiment ce symbole-là du phare un peu fou, un peu dans le fond qui est un phare qui est plus pour guider vers un abri, mais pour guider vers un naufrage. Et puis je voyais une analogie entre ce phare fou, ce phare naufrageur et le projet européen qui, dans le fond, attire une population avec un projet d'émancipation, les droits de l'homme. Nous, on est le monde de la démocratie, les droits de l'homme. Mais quand les gens arrivent, en fait, ils rencontrent un mur. Et ils sont naufragés. Donc j'avais fait une analogie comme ça. Et donc l'installation prenait la forme d'un phare, comme une tour de Babel, qui déroutaient comme ça des naufragés autour.
Et on continue, et puis j'aimerais faire le lien justement entre cette pratique de l'affiche et cette pratique du détour ou de la pratique artistique. Et j'ai l'impression qu'on glisse ou on surfe directement vers ton projet d'art public. Alors, tu travailles sur ton premier projet d'art public. J'aimerais te décrire un peu l'idée, la sculpture. Ce sera une fontaine devant la bibliothèque Maisonneuve à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, montée sur un piédestal de type classique. En granit, va se trouver une paire de bottes. Et c'est des bottes qui sont ambiguës. Ça pourrait être des bottes de pluie imperméables ou des bottes militaires. Mais une chose est certaine, il n'y a pas le corps qui devrait les accompagner. À la place, les bottes sont remplies d'eau. C'est une fontaine. Il y a même un jet d'eau. Donc, c'est un peu l'arroseur arrosé. Il y a un thème de l'eau qui revient.
Oui, c'est ça. Cette installation, elle est les pieds dans l'eau aussi. Ben, cette sculpture, en fait, parce que c'est vraiment une sculpture d'art public comme tu l'as décrit, elle est, c'est un socle en pierre, les bottes sont en bronze, donc il y a comme un rapport à la statue très classique. Il y avait plusieurs influences, ben un jeu tout bête d'arroseur arrosé, ou même quand on pense bottes, on pense mouillé, mais pourtant on met des bottes pour avoir les pieds au sec. Juste cette espèce de paradoxe-là, encore une fois, cette installation va être devant la partie des enfants de la nouvelle bibliothèque. Donc il y avait l'idée aussi d'être de proposer d'emblée un jeu très très simple. Mais en toile de fond, il y a aussi, puis peut-être notre rapport au sol aussi, notre rapport des bottes. Il y a juste plus que des pieds sur terre, là. Donc il y avait quelque chose de très minimal comme ça, qui me plaisait beaucoup. Et puis en toile de fond, l'arroseur arrosé, c'est aussi toutes ces statues qu'on déboulonne. Et notamment il y a dans le parc des statues d'art public à Montréal, il y en a une que je trouve très amusante, c'est celle de John McDonald, qui est sempiternellement vandalisée par des gens qui veulent faire apparaître comme ça son rôle très néfaste dans la colonisation et puis dans le génocide amérindien. Et puis en discutant avec des étudiants une fois dans un cours, on avait eu cette idée que dans le fond parce que la question qu'on s'était posée, c'était est-ce qu'il faut la nettoyer, en fait, cette statue-là. Puis, alors, on trouvait que, à la fois, qu'on voulait pas la retirer, dans le sens qu'on pensait pas que l'histoire est réparable en enlevant des statues.
Comme on l'a fait à Victoria, par exemple, la statue de McDonald a été enlevée.
En tout cas, on peut le faire,
on
évidemment.
Le
oui,
faire,
mais que, en fait, est-ce que la situation est satisfaisante de l'effacer? Mais en fait, la garder est absolument pas satisfaisante non plus, parce que on peut constater qu'on se reconnaît plus dans ces grands hommes-là. Donc, il y avait eu cette idée de la garder tachée. Et donc, à partir de là, j'avais eu l'idée d'une statue qui s'auto-vandaliserait elle-même. Puis, les bottes portent trace de ça, en fait, comme d'un... C'est ça, un dispositif d'auto-vandalisme.
Ben c'est très intéressant, puis on va continuer de parler de ta pratique artistique après la pause musicale. On va retourner en musique avec Earth Eater. Donc, c'est en fait un pseudonyme de l'artiste multi-instrumentaliste et compositrice new-yorkaise Alexandra Droschwin. Avec Earth Eater, elle fait converger la production numérique expérimentale, la voix et la composition classique dans des œuvres sonores dangereusement gestuelles. Écoutez Radio Atelier à CIBL. Nous poursuivons notre entrevue avec Clément de Goljac. Et comme nous sommes à l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles, Clément, j'aimerais parler justement de ton travail et vraiment de ta pratique de travail, parce que tu as une implication qui est à la fois bénévole, donc de l'implication, comme on parlait avec Extinction Rébellion. Tu as également des commandes. Tu fais le choix de travailler pour des organisations qui correspondent idéologiquement, donc par exemple des organismes de lutte contre la pauvreté, un collectif de droit au logement ou le magazine À Bâbord. Donc, ils vont pas juste chercher des compétences graphiques, mais ils vont également te chercher parce que tu génères des idées.
Ben c'est vrai que moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup et que dans le fond moi j'ai pas un rapport à l'illustration autant je reconnais comment dire je sais que dans des fois dans les écoles d'art ça peut être un peu critiqué le illustratif c'est pas un compliment généralement quand on dit d'un travail qu'il est illustratif alors que moi je me revendique complètement de ça mais par contre j'essaie justement que cette illustration ce dessin soit le lieu de pour générer une idée. On parlait d'Extinction Rébellion un peu plus tôt. En effet, c'est très rare qu'ils me disent « Ah, Clément, on aimerait bien que tu fasses un dessin de Fox sur la banquise, nanana ». Enfin, je veux dire, c'est pas, on vient pas me chercher parce que je sais bien dessiner dans le sens pour matérialiser des idées qui existeraient déjà, en fait, dans le fond. Il y a un problème à figurer. Souvent, c'est des contradictions qui m'intéressent ou des nœuds dans la discussion. Et puis moi, j'aime bien chercher des manières de les figurer, de trouver à les mettre en tension dans un dessin, souvent un dessin avec du texte qui c'est un cool fait voir.
C'est un peu ce que t'appelles une machine dialectique.
Exactement. C'est tout à fait ça. C'est pour moi les petites machines dialectiques, c'est ça. C'est quand tout d'un coup la tension entre deux termes se voit. En fait, elle apparaît. Et ce faisant, elle donne du jeu dans le problème en fait. Souvent, ce qui la libère là, ce qui la fait apparaître, souvent c'est une blague. Hein, je veux dire, moi je recherche l'humour, c'est vraiment le moteur de mon travail. Quand je trouve une idée qui me fait rire, là j'ai vraiment envie de la réaliser, puis après de la réaliser au mieux possible pour que la chose qui m'a fait rire en pensée, en tout cas, devienne quelque chose de drôle, mais aussi quelque chose de, c'est pas tellement de la satire dans le sens de la caricature que justement encore une fois essayer de faire voir le nœud du problème, je sais pas comment le dire.
Je te mets un peu là sous on the spot là, je connais pas la traduction française. Est-ce que tu as un exemple peut-être d'une blague dernièrement? Je continue à parler pendant
oui,
que
oui, j'en ai une par exemple écoute, je sais pas si c'est bon, mais je vais la décrire, puis c'est celle qui m'est venue en tête. C'est on voit il y a écrit perturbation, c'est le titre de l'affiche, puis des perturbations à prévoir, même j'ai oublié moi-même. Puis en fait, il y a une voiture qui est sous l'eau. Puis ça, c'est quand Extinction Rébellion avait occupé le pont, puis qu'on leur reprochait les embouteillages. Puis là, il y a crise climatique ou je sais pas quoi, des perturbations à prévoir. Puis évidemment, l'attendu, c'est juste le double jeu de mots entre les perturbations, c'est la pluie qui tombe, et puis les perturbations, c'est les écologistes qui perturbent. Et bien, on voit une voiture qui est engloutie dans l'eau, et puis il y a une bulle qui, la voiture, dit maudits écolos, quoi. Et dans le fond, en fait, la perturbation, c'est là qu'elle est dialectisée, quoi. Qu'est-ce qui est le plus perturbant, des manifestants qui bloquent un pont pendant, alors que par ailleurs tous les matins il y a du trafic, ou est-ce que c'est une inondation qui peut tout emporter?
Oui, tout à fait. Ben, c'est une. On invite les gens à consulter ton site internet qui est également très généreux pour justement ces affiches. On mettra toutes nos références au radioatelier.ca. Alors, donc le travail de dessin. C'est un travail qui est solitaire que tu fais chez toi, mais tu expérimentes également avec une autre manière de travailler dernièrement avec l'art public. Alors, c'était peut-être dans un moment de transition dans ta pratique, tu as fait beaucoup de travail d'illustration. Est-ce que tu peux nous parler justement de qu'est-ce que c'est dessiner pour toi de ce travail-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller rechercher dans ce travail solitaire du dessin? Ou qu'est-ce que tu vis ces temps-ci avec ce travail collaboratif en art public?
Ben en effet, c'est vrai que une des joies que j'éprouve à faire ce projet d'art public, dont on n'a pas dit qu'il existe pas encore en fait, ou je sais pas, mais en tout cas qu'il va exister dans 2 ans, donc il est vraiment en train de se faire. Mais une des joies que je rencontre vraiment en le faisant, c'est que la plupart du temps, comme tu l'as dit là, le travail, même souvent. Le travail d'illustration qui reste de la commande, donc qui naît d'une discussion avec des gens, qui naît d'un désir d'autres personnes. Puis ça, c'est très important pour moi. Pourquoi j'aime faire de la commande, c'est d'une part parce que ça peut rapporter des sous, mais aussi beaucoup parce que c'est un travail collectif, dans le sens qu'il y a une demande, il y a un désir, et puis il y a une manière de répondre à un désir, ça c'est important. Mais la production elle-même de l'affiche, du dessin, c'est un travail super solitaire, même si l'affiche, après, elle peut avoir un parcours public qui m'épate moi-même quand je les vois affichées dans la rue ou quand les gens les partagent sur Facebook. Moi, ça me rend très heureux, mais les gens s'en emparent et puis ça devient un truc collectif, mais à la base, c'est très solitaire. Alors que le travail, justement, de sculpture, ça m'amène à rencontrer toutes sortes de gens dans la sculpture, des métallos, un tailleur de pierre, des fontainiers. Enfin, je veux dire, je rencontre plein de corps, de métiers, de compétences. Puis c'est assez extraordinaire de se retrouver à faire ce chantier-là.
Mm-hmm, oui. Et puis, pour terminer l'entrevue, j'aimerais revenir avec ton travail d'illustration. Donc, tu as commencé une série avec le Cartanier, qu'on pourrait nommer la trilogie épistémologique. C'est une série de livres, donc le livre noir de l'art conceptuel, Grande École et finalement Les Artistes. Tu continues cette série-là pour notre plus grand plaisir au magazine Vie des Arts. Je trouvais la manière dont tu travaillais très intéressante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série-là, mm-hmm. et puis de comment tu travailles la suite?
Ben, peut-être pour boucler avec le début de l'entrevue, peut-être c'est la partie de mon travail qui est la plus régulière, dans le sens que c'est des livres qui mettent en scène des artistes en proie à des problèmes d'artistes, et qui sont souvent des problèmes, comment dire, qui sont à la fois... je pourrais peut-être décrire en tout cas ces trois livres. Il y en a un qui s'appelle « Le livre noir de l'art conceptuel », qui est le plus ancien. 2011, c'est ça, dans lequel j'avais... c'est une sorte de dommage absurde à l'art conceptuel, mais qui était aussi, moi qui illustrais un peu, bah, j'en ai parlé plus tôt, je vais pas reparler, ma crise du White Cube, là, mon besoin de faire autre chose, et puis donc du coup de représenter sur un mode un peu BD de l'art conceptuel. En fait, c'était comme me faire une faute de goût exprès, là, et puis je me faisais plaisir, enfin comment dire, c'était ce déraillement-là que le livre orchestrait. Puis à la suite de ça, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Grande École, qui est sorti en 2012, un livre dans lequel je me posais les questions des règles de l'art, justement, précisément ça, dans le genre, parce que les règles de l'art, on sait bien qu'elles n'existent pas, tu sais, on peut pas les enseigner, mais en même temps, on sait aussi qu'elles existent, parce qu'on, enfin, y a, ça aussi, c'est une dialectique, là. On sait très bien qu'il y a des choses qui se font et qui se font pas, mais on peut pas dire c'est quoi. Puis, j'avais envie de travailler avec ça en tête, parce qu'il a bien fallu que je les apprenne, justement, pour pas me tromper tout le temps, là. Mais il a fallu que je me trompe beaucoup. Donc, quand on décolle, c'est une succession de petits récits où je me suis trompé en apprenant moi-même les règles de l'art. Et puis, après, il y a eu un autre livre qui s'appelait Les Artistes, et puis qui est vraiment cette série-là qui continue dans Vie des Arts. C'est comme si les apprentis qui sont représentés dans Grande École avaient continué leur vie, puis bah, les artistes, en fait, c'est nous, là, comme c'est ceux qui sont autour de la table, dans le sens que c'est
C'est en fait les personnes de Grande École, peut-être, qui sont devenues des artistes, qui sont pas nécessairement des célébrités, mais qui sont pas des ratés non plus.
Non, ben moi, je voulais l'appeler la série, là, elle s'appelle Moderne et Beau dans Vie des Arts, mais c'était comme un titre un peu... mon deuxième titre, mon premier titre, c'était Les Petits Maîtres. Mais j'avais peur qu'on pense que moi, je les regarde de haut, Les Petits Maîtres, comme si moi, j'étais... alors que, dans le fond, je m'identifie totalement à être un petit maître. Donc Les Petits Maîtres, c'est un peu comme le cœur des apprentis de Grande École. Dans le fond, c'est tout le monde. Puis je sais que t'intitules l'émission là, les travailleuses culturelles, c'est l'idée que Les Petits Maîtres, c'est justement tous ceux qui sont absolument il n'y a pas de grand maître sans petit maître, dans le sens qu'il faut des gens avec tellement de compétences pour décoder qu'est-ce que c'est que l'art et pour faire fonctionner cette espèce de machine de symbolique là, de générer du sens et puis de le critiquer, etc. Donc c'est les artistes de Moderne et Beau, là, c'est justement tout des gens qui sont prises avec des problèmes d'artistes qui sont et puis tout le temps. C'est quand même une série qui est aussi un peu mordante aussi, parce que les artistes, ils sont tout le temps aussi inutiles, nécessaires, très capricieux, mais très généreux, pris avec des problèmes d'ego, d'autorité, d'hierarchie. Ils essayent en même temps de les déjouer, d'être dans l'autocritique permanente. C'est ça que j'essaie de montrer.
Eh bien, c'est ce que nous essayons également de montrer parfois à Radio Atelier. Clément de Goljac, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est ce qui va conclure notre moment.
Merci beaucoup.
On te lira dans la vie sur la magazine Vie des Arts et un peu partout également sur l'espace public dans ton travail d'affiche. Mais on va présentement, nous, continuer à surfer, à prendre le large avec Fougère après la pause pour une table ronde sur la micro-édition.
« Saviez-vous que les normes du travail prévoient maintenant qu'après 3 ans de service chez un même employeur, la durée des vacances est de 3 semaines? En effet, qu'on soit à temps plein ou à temps partiel, les vacances payées sont accumulées en fonction de la durée du service continu. Au Québec, c'est la norme. Pour plus d'informations sur la manière de déterminer la durée des vacances annuelles, visitez respectdesnormes.com. Un message de la CNESST.
Ici Philippe Beauchemin.
Et Stéphane Delaurier.
À Culture Rock, on vous propose un tour d'horizon complet de ce qui se fait dans le rock d'ici et d'ailleurs, tout genre confondu.
Et chaque semaine, on vous convie à un rendez-vous diversifié où vous ferez de nombreuses découvertes musicales.
Culture Rock, tous les lundis soirs de 21h à 23h sur les ondes de CIBL 101,5.
Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur l'art actuel et les personnes qui y travaillent en direct de CIBL 101.5 Joe-Jagay, Montréal. Vous pouvez nous rendre visite au radioatelier.ca. Vous pourrez télécharger tous nos épisodes ou en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes et même nous écrire. Radio Atelier est aussi sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Si vous souhaitez nous aider mais ne savez pas comment, eh bien je vais vous le dire, vous pouvez parler de notre émission à un ami, partager notre site sur vos réseaux sociaux ou encore proposer à votre galériste une série de toiles faites en notre honneur. Pour notre deuxième partie de l'émission, nous vous proposons une table ronde sur la micro-édition. Nous sommes heureux d'avoir en studio avec nous des représentants de Fougères, une ombrelle pour des publications indépendantes. D'abord, les fondatrices de Cigale, Laure Bourgault et Anne-Marie Trépanier, bonjour.
Bonjour.
Nous avons également la fondatrice de la maison d'édition Le Laps, Marie-Douce Saint-Jacques, bonjour.
Salut.
Et pour parler de la publication Le Merle, cahier sur les mots et les choses, nous avons François Lemieux, bonjour.
Mmh. Allô.
Alors, à votre demande, nous avons un son de fougère dans le background. Ce sont des gouttelettes d'eau qui tombent sur le couvert feuillu d'une forêt. J'espère que vous appréciez. Alors, avant même de parler de vos propres publications, j'aimerais vous lancer une question à tous et à toutes. Donc, c'est une question qui est assez simple. Alors, c'est quoi une micro-maison d'édition? Marie-Douce?
Ben, c'est un projet amoureux, je pense. Avant toute chose, c'est de se mettre corps et âme dans un projet un peu ubuesque, qui rapporte pas du tout d'argent, un labor of love, comme on dit, mais qui aide à s'inscrire dans une communauté et à diffuser indépendamment, c'est le mot magique, indépendamment, des écrits.
C'est merveilleux. J'aurais pas fait mieux. Est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à ajouter?
Non, je trouve ça si beau.
Ouais, c'est magique.
On va le laisser flotter.
Et puis, on peut commencer à parler de chacune de vos publications. Donc, commençons par Cigale. Cigale, vous êtes un périodique bilingue consacré à la diffusion d'écrits d'artistes contemporains. Vous favorisez la rencontre d'idées au-delà des délimitations géographiques et des frontières langagières. Vous publiez des textes et visuels rassemblés sous forme de dossiers thématiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre premier et jusqu'à maintenant seul opus?
Oui, ben en fait, à l'origine du premier numéro, donc il y avait un sentiment, si je pourrais dire, d'affinité, de pensée et d'action qui venait lier en fait des artistes des communautés dans lesquelles on évoluait et qu'on a eu le désir de réunir au sein de la publication et avec une volonté qui répondait peut-être à une forme de nécessité en fait de réfléchir aux formes de travail liées à nos positions d'artistes. Nos jobs alimentaires, travail de médiation et autres, et aussi à une certaine incorporation du travail.
Mm-hmm. Ça s'appelait le corps au travail.
Oui, exactement, ou working body dans sa version anglaise, puisque tous les textes, comme on l'expliquait au début de nos numéros, sont traduits en anglais et en français. Puis donc, le mandat de Cigale est aussi d'aller rejoindre les deux solitudes, comme on les appelle, du milieu artistique montréalais et international. Donc, on invite des artistes de nos communautés locales et d'ailleurs à venir entrer en dialogue autour de thématiques qui les qui les anime.
Mm-hmm. Ça, c'est un petit poisson qui navigue dans chacun de vos étangs. Mm-hmm. Je me tourne maintenant vers Marie-Dou Saint-Jacques. On a déjà eu la chance de t'accueillir à l'émission pour parler de ta pratique et notamment de ta maison d'édition, Le Laps. C'était le 20 août 2018 pour notre émission numéro 10. Alors, Le Laps, vous publiez des textes en marge de la littérature, privilégiant la sensibilité singulière d'artistes de tout horizon. Vous publiez un livre maximum par an. Vous avez jusqu'à maintenant 6 publications et on pourrait presque dire que c'est comme une résidence de publication pour artistes.
Oui, c'est tellement lent, c'est la slow publishing, c'est vrai. Le Lab, c'est un moyen, c'est un projet de diffusion, puis aussi c'est un projet de bibliophilie, c'est un moyen pour moi, pour nous, au Labs, de rendre honneur aux écrits d'artistes, oui, puis aussi rendre honneur à l'interdisciplinarité, en fait, parce que c'est des écrits d'artistes dont la pratique première n'est pas l'écriture. C'est aussi un moyen de créer des petits objets, comme des petits vortex un peu magiques pour attiser la curiosité, faire rebondir des idées qui se glissent dans le temps puis qui laissent assez peu d'empreintes écologiques.
Bien, tout à fait. Tout à fait, on va parler de toutes ces notions-là plus tard dans la table ronde. Finalement, François Lemieux, donc Le Merle, ça c'est issu d'une résidence d'artistes et un lieu d'exposition qu'il y avait chez toi entre 2008 et 2010. La micro-maison d'édition entre art et politique est une manière de garder et de continuer à tisser le réseau qui s'était dressé pendant cette expérience-là de résidence et lieu d'exposition, mais selon un rythme là, qui ne fasse pas violence à la fois à vos pratiques et à vous-même. C'est également toi qui as proposé cette conversation à l'émission ce soir. Donc, dans le contexte actuel, est-ce que Le Merle et des micro-maisons d'édition, comme on les connaît maintenant, c'est encore une manière de bien remplir ce mandat-là, de ne pas faire violence, ou est-ce qu'on doit repenser à quelque chose?
Bien, c'est une façon certainement de laisser des traces de ces conversations, puis de ces écrits. En fait, avec Marie-Dou, c'est très intéressant parce que le Laps propose des fois à des gens qui n'ont pas de pratique d'écriture de laisser ce type de traces-là. Ça devient des objets très précieux puis assez riches là, comme traces. Avec le Merle, on le fait ou on donne la chance à d'autres de le faire aussi parce que c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui mènent à bien le processus d'édition. Mais oui, c'est des alliages toujours renouvelés, un peu curieux, parfois assez indociles ou indisciplinés, mais...
Alors, dans la première partie de la table ronde, j'aimerais qu'on parle justement des réseaux que vous dressez, parce que chacun de vos projets est issu d'un désir de prendre soin, d'avoir une idée d'hospitalité. Donc, j'aimerais qu'on parle d'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité pour vous en édition ou en micro-édition?
Ben, je pense que je vais parler pour nous deux avec Laure, en fait. Pour nous, le travail en tant que tel d'édition a commencé avec le premier numéro sur le corps au travail, avec la notion aussi de soins qu'on pouvait apporter à nos corps, mais au corps des autres aussi, à travers le respect de nos pratiques et de nous-mêmes. Puis, dans notre travail quotidien comme éditrice, on est très très attentive au mode de communication dans lequel on s'engage avec les auteurs, les autrices, les artistes avec qui on collabore. Puisqu'on veut que ce soit quelque chose qui soit pérenne, dans lequel les artistes puissent s'accomplir pleinement, vraiment qu'ils prennent ça comme étant une plateforme qui leur appartient tout autant qu'à nous, puis qu'elles puissent aussi éventuellement entrer en contact avec d'autres personnes avec lesquelles elles partagent des idées, des fantasmes, des motivations similaires. Donc, pour moi, l'hospitalité, c'est vraiment ça, c'est une notion de partage, puis de communauté.
Ouais. Puis si je pourrais rajouter, j'ai l'impression que parfois il y a quelque chose un peu d'une forme de valse entre accompagner et laisser aussi un espace aux artistes avec qui on travaille et je dirais aussi comme tu parlais de notre travail quotidien en fait d'échange de courriel, il y a quelque chose aussi de se demander comment on peut créer un sentiment de soin à travers ce genre d'échange là finalement.
Oui, un sentiment d'écoute, un sentiment de soin. Est-ce que c'est quelque chose qui sonne des cloches similaires pour le Merle et le Laps?
Ah oui, tout à fait. Bien, surtout avec la lenteur qu'on décrivait dans mon cas, il y a un travail d'échange avec l'artiste de l'année. L'artiste avec qui je travaille pendant l'année pour la publication. Et Il y a beaucoup d'échanges, effectivement, il y a beaucoup d'écoute, puis il y a surtout, comment dire, un espace de liberté.
Oui. Mm-hmm. Ouais, puis quand on pense au MERL, on pense également à un réseau international. Il y a des personnes, c'est le cas pour Cigale également. Comment l'hospitalité se performe ou se matérialise dans le MERL?
Bon, il y a plusieurs choses. Il y a où on dirige notre attention. On va voir peut-être des fois comment ça se passe ailleurs aussi, comment les conversations sur des sujets connexes à ce qui se passe ici se déploient dans d'autres contextes pour des travailleuses culturelles ailleurs. Ça nous est arrivé on s'est penché sur les Pays-Bas pour un numéro où là-bas ils vivaient des choses assez difficiles dans le milieu artistique. Sinon, le plus récent numéro du MERL, édité par Anne Lardeux puis Suzanne Bett, a été entièrement dédié à la question du soin, une conception politique du soin. Donc oui, je sais pas.
Oui, non, c'est comment. C'est très bien. Puis ça nous amène un peu à parler de fougères, là, si on veut. Donc en préparation à l'émission, on parlait de fougères comme une ombrelle. C'est quelque chose qui protège des petites initiatives que vous avez appelé l'humus. Donc moi, j'aimais beaucoup cette image-là, des publications indépendantes comme de l'humus. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe pour vrai, fougère?
Je pense que comme on disait dans nos discussions en amont de cet entretien, c'est que ça existe de manière affective dans nos échanges puis notre partage d'idées, disons. Je dirais que c'est un projet qui est vivant à travers nous toutes et tous, puis oui, que c'est tout ce que ça prend. En fait, ça prend juste un humus pour faire jaillir les petites pousses.
Et peut-être que d'en parler comme ça, c'est aussi une forme d'acte d'incantation.
Mm. Ouais, c'est performatif. Mais je pense juste de savoir que ces projets c'est des projets assez précaires, assez fragiles, néanmoins nécessaires, puis de se savoir lié de façon assez large comme le radeau de Deligny, c'est une belle façon aussi de trouver des savoir-faire chez les autres, un peu d'aide ou de réconfort dans des moments difficiles.
Oui, Marie-Douce.
Ça répond aussi à une des plus grandes difficultés de la microédition, c'est la diffusion puis la distribution. Mm-hmm. C'est très, très, très chronophage de faire ça. On est souvent seul ou deux ou en petite communauté pour mener nos projets à bout de bras. Donc, Fougère, pour nous, c'était d'amorcer peut-être un dialogue, peut-être une communauté, en fait, ouverte à cette pratique-là d'édition. Puis on pourrait s'entraider, on pourrait peut-être éventuellement diffuser ces éditions-là, avoir une plateforme. C'est notre rêve. C'est ambitieux, mais je pense que c'est absolument nécessaire, en fait. Mm-hmm. Parce que laisser des livres en consignation dans les librairies, c'est un cauchemar. C'est assez difficile, en fait, de diffuser les projets d'édition. Oui.
Parce que ces projets-là sont trop petits pour s'inscrire dans des réseaux commerciaux mm-hmm. libraires. Oui. Donc, il faut vraiment parcourir les lieux puis laisser nos quelques copies à chaque endroit. Puis tenir les comptes dans ces réseaux-là, ça peut devenir assez kafkaïen.
Mais je propose qu'on en parle davantage après une petite pause musicale, parce qu'on va vraiment rentrer dans le nerf de la guerre, justement, en parlant des ressources, des distributions, peut-être même des subventions. C'est une chose qui est rare, mais qui parfois arrive. Donc, on va écouter Az Aka, la première pièce à émerger de la nouvelle collaboration entre le duo berlinois Amnesia Scanner et l'artiste musicienne péruvienne Lalita.
Regresará acá, acá. Me han contado que tanta vuelta, disgusting, no recuerdo que no soñaba. Que ya el dolor
Vous écoutez une table ronde sur la micro-maison d'édition avec Fougère à Radio Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard et on parle maintenant d'argent. On parle du nerf de la guerre. Alors, Fougère, vous vous êtes réunis justement pour mutualiser des ressources. On parlait de distribution. Est-ce que vous avez d'autres problématiques de micro-maison d'édition qui vous viennent en tête?
Je dirais justement parlant de distribution parce que je pense que François y a fait un peu mention, on a fait mention avant la pause, mais les modèles actuels de distribution, si on pense par exemple aux plus grandes maisons d'édition qui peuvent se permettre d'avoir accès à des distributeurs qui s'occupent de distribuer leurs produits exactement. Ce modèle-là, en fait, correspond vraiment pas quand on a des très petits moyens en tant que soit micro maison d'édition, revue indépendante, périodique de toute forme. Donc, ça prend une forme de solidarité, de mise en commun des ressources. Puis, justement, je pense qu'avec Fougère, c'est d'essayer d'aller, de repenser, en fait, le modèle de distribution en étant, disons, plus autonome, indépendant, en gardant cette même culture-là de l'autonomie, mais en commun. Donc, ouais.
Il y a également la notion des entrepôts, des plateformes Internet. Donc, Fougère, c'est un peu ce rêve, ce désir et ce besoin de regrouper ces problématiques très matérielles.
Oui, d'autant plus que, c'est ça, on tombe un peu comme entre les cracks du plancher, là, parce que c'est pas considéré comme des projets artistiques, alors qu'on est tous quand même considérés comme des artistes. Qui ont accès aux bourses, ces trucs-là. Mais pas pour ce type de projet-là. Quoique, pour beaucoup, ça s'inscrit dans nos réflexions au niveau de la pratique à titre d'artiste, là. C'est un peu, porter plusieurs chapeaux, ça devient un peu difficile parce que, c'est ça, il n'y a pas vraiment de moyens pour ça. Puis pour avoir un financement qui serait, disons, qui aurait à voir avec, le financement de périodiques ou de revues. Là, ça prend des équipes, c'est comme des trucs où il faut de la pub, il faut des trucs comme ça. Donc, le type de projet ne s'insère pas tout à fait entre le livre d'artiste puis la revue. Oui, c'est un peu problématique à ce niveau-là.
Oui, tout à fait, c'est incassable. C'est à la fois trop petit, parfois trop jeune, pas assez grand, pas assez de tirage. Et c'est des manières, d'une certaine manière, qui sont très séduisantes pour travailler. Donc, de sortir justement des maisons d'édition institutionnels ou des centres d'artistes comme on le connaît ou même des musées, ça nous permet d'expérimenter d'autres manières de faire le travail, notamment du travail décentralisé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation du travail dans vos projets, puis en quoi c'est expérimenter d'autres formes de travail, puis en quoi ça c'est intéressant? On parlait notamment de la lenteur là avec le laps.
Oui, le laps aussi, chaque livre est très différent l'un de l'autre, vu que c'est toujours avec des artistes différents qu'on travaille. Donc, il y a toujours une adaptation, malgré l'expérience qui commence à se construire un petit peu. C'est ça, c'est toujours, faut s'adapter à chaque projet.
Mm-hmm. Le Merle, donc, c'est des éditeurs différents à chaque publication?
Pas à chaque publication, mais la porte est ouverte pour des projets un peu risqués, un peu expérimentaux. Ça a toujours un pied dans les arts, puis un pied plus dans des questions politiques. Oui, donc c'est ça, c'est assez non conventionnel comme forme, assez décentralisée, puis on donne beaucoup de latitude. L'idée, en fait, c'est d'agir un peu comme écran entre les éditeurs, puis le travail qu'ils font de leur côté, puis le soin qu'ils portent à amener les textes à la forme imprimée. Puis toute la poutine d'impression, de mise en page, de trouver les sous, tout ça. Donc, c'est ça. Il s'agit vraiment de donner les conditions idéales pour faire ce travail un peu expérimental dans les bonnes conditions, malgré toute la précarité que ça sous-entend. Oui.
Et finalement, comme on a entendu pour le laps et le merle, je me demandais chez Cigale, d'autant plus que vous avez dévoué votre première publication sur la notion du travail. Comment ça se passe chez vous?
Je pense que, il faut dire qu'on est une publication qui est toute jeune aussi. On travaille actuellement sur notre deuxième numéro, donc c'est une forme de négociation, d'ajustement aussi. On apprend en fait. Et je pense qu'on voit un peu chaque publication comme une forme de de collectif qui est toujours renouvelé aussi. Donc, chaque publication, je pense, a son mouvement propre.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, peut-être aussi souligner que en tant qu'étudiante aussi, on est comme fortement influencé par les sujets dont on traite dans nos études aussi. Puis, c'est quelque chose qui vient comme s'injecter dans notre travail comme éditrice également. Puis oui, la notion de collectif est vraiment très forte, autant avec les auteurs-autrices que les petites mains qui viennent nous aider à faire l'édition, la révision, la correction, mise en page et tout. Donc, c'est un vaste travail d'échange.
Ouais, et je pense que le deuxième numéro, en fait, reflète un peu ce type de réflexion-là. Il va être question de déplacement. De représentation des espaces qui finalement fait écho un peu à nos procédés de travail.
Mm-hmm. Donc, on a parlé au point de vue, on a parlé de réseau que vous constituez, du soin, on a parlé également de votre mode de travail chez vous, mais il y a également tout plein de projets qui permettent à des micro-maisons d'édition comme ça d'exister. On parle notamment d'Archives Montréal qui organise Exposine et Volume. En quoi des entreprises comme ça ou des initiatives comme ça, c'est des choses qui sont importantes? Marie-Lou Saint-Jacques?
Hein? C'est des initiatives essentielles. Je peux pas souligner assez le mot. Là. C'est encore une fois aussi un projet mené à bout de bras avec intensément de passion par Louis Rastelli, qui fait partie de la scène des indépendantes à Montréal depuis très, très longtemps et qui se dédie complètement. Et encore une fois, dans des structures comme Archives Montréal, il y a toujours les enjeux des subventions. On n'est pas tout à fait au courant parce que, on fait pas partie du collectif... d'Archives Montréal, mais on sait, nous, en tant qu'éditeur, que si, en tant qu'éditrice, que si ce genre d'initiative-là n'existait pas, ce serait une catastrophe, hein, c'est sûr.
Oui, on pense à Volume 2, dont l'édition était juste ici à la SAT il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment une occasion de rencontre aussi, d'élargir ces réseaux-là, de rencontrer des praticiens qui ont des démarches complètement différentes, mais c'est là, en fait, la richesse de ce type de rencontre-là. C'est comme c'est un milieu fragile, c'est d'autant plus nécessaire, crucial même d'avoir ce soutien-là. Donc, ils font un super beau travail.
Oui, puis oui, ça devient aussi une forme de rituel, j'ai l'impression, parce que on faisait mention de la solitude du travail d'édition, puis c'est comme un souffle quand on peut avoir la chance d'aller à ces événements-là. Puis je veux dire, Laure et moi, on a eu notre baptême cette année avec Volume, puis on a trouvé ça absolument rafraîchissant de justement avoir accès à autant de savoir, à autant de belles personnes qui se dédient avec passion dans leur métier. Puis c'est vraiment quelque chose qui vient marquer le temps, quoi. Ça vient d'une certaine manière clore ou ouvrir un nouveau cycle à chaque année. Puis il faut que ça reste là, parce que sinon c'est comme si ce souffle là va s'effacer. Puis on veut pas justement perdre cette énergie là en tant que communauté.
Puis, quand on parlait de communauté, pas légale, mais de communauté locale, quand on parle du contexte très particulier de Montréal, je pense que c'est important qu'on parle du bilinguisme. On a un bilinguisme de fait à Montréal, surtout dans les sphères artistiques. Vos publications sont traduites français-anglais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce désir-là, peut-être de tendre la main à la communauté anglophone et francophone?
Ben, je pense que ça participe d'une volonté de lier des communautés au-delà de Montréal. Je pense aussi de travailler avec des collaborateurs, collaboratrices qui parlent ou non le français, puis créer une circulation, en fait, des savoirs, des pensées.
Mm-hmm. François, oui, François?
Ça résume l'essentiel de la pensée. Hein.
Puis moi, je trouve intéressant parce que dans vos publications, la traduction peut même être représentée dans la mise en page. Donc, ça change matériellement votre livre, ces communautés-là.
Oui, puis même que nous, on a pas un enjeu, mais disons qu'on est en questionnement par rapport à ça, parce que c'est un art que d'intégrer deux langues dans un même recueil. Puis, donc, pour le premier numéro, on avait intercalé... le français dans l'anglais ou l'anglais dans le français pour justement essayer de défaire ces distinctions-là entre les deux langues, puis plutôt de venir les lier directement dans le corps du livre. Puis Peut-être juste une petite chose que j'aimerais souligner aussi, c'est la qualité artistique de la traduction. Donc, nous, on considère vraiment que la traduction entre dans le registre de la création. Donc, c'est quelque chose qu'on met énormément de l'avant. Donc, quand on sélectionne les traducteurs, les traductrices pour chaque texte, on s'assure d'avoir une forme de préservation de la nature du texte ou que, par exemple, que la traduction vienne ajouter quelque chose à la lecture. Donc, on voit vraiment ça comme étant un travail tout aussi important que le travail d'écriture. Puis je pense que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité puis qui est vraiment de plus en plus pris en compte dans le travail de publication, particulièrement à Montréal aussi, j'ai l'impression.
Tout à fait, oui. Pareillement, avec le Merle, on essaie vraiment de trouver des... c'est comme un pairage de vin pour un bon repas. Donc, on passe quand même pas mal de temps à choisir vraiment les bons mélanges, des traducteurs adaptés ou appropriés ou en amitié avec les textes qui vont devoir traduire.
Oui, mais la notion de traduction dans une publication, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que la traduction d'une idée en mots, mais pour le cas du lab, c'est également une pratique en mots parce que vous faites des pratiques, vous avez des livres même multidisciplinaires.
Des livres disques, entre autres, oui. Effectivement, c'est une manière de traduire dans la forme d'un livre des idées.
Ben tout à fait. Donc, écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde micro maison d'édition. Je vous souhaite la meilleure des chances avec Fougère. Peut-être qu'on aura la chance d'en reparler sous cette feuille qui est Radio Atelier. Pour conclure, j'aimerais un peu vous demander, parce que c'est notre dernière émission de l'année, est-ce que vous avez des souhaits pour Fougère pour 2020, de ce que vous aimeriez voir grandir de cet écosystème?
Wow, grosse question.
Moi, je peux commencer, je souhaite que Fougère ne se retrouve pas sur une île déserte.
Oh, oui, pour faire un lien avec le début d'émission.
Peut-être que ce processus d'incantation se matérialise dans une plateforme.
Oui. Mais... Puis, ben, je veux dire, on est quand même dans cette quête de trouver de l'eau pour notre fougère, donc croisons les doigts pour 2020.
Fantastique. François, est-ce que t'as un vœu pour
non,
fougère?
Non, je suis tout à fait avec la famille, ouais.
OK. Fantastique. Ben, merci beaucoup. Donc, vous êtes à l'écoute de Radio Atelier. C'était notre dernière émission pour la saison d'automne 2019. Chers auditrices et auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. On va terminer l'émission ce soir avec une dernière pièce, une musique de Asa Tone, un projet composé de Melati Amale, originaire de Jakarta, et des artistes new-yorkais Tristan Harp et Kazi. C'est une pièce enregistrée dans un studio temporaire en Indonésie, niché dans la canopée de la jungle. Les pièces improvisées intègrent des techniques de traitement sonore numérique et analogique. Leur premier album, Temporary Music, est prévu pour janvier 2020. Et je m'appelle Benjamin Gialard. Vous écoutiez la 68e émission de Radio Atelier à CIBL. J'aimerais remercier toute l'équipe, Janie Cartwright à la mise en onde et Manon également la mise en onde, Véro Marangère aux communications. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions au radioatelier.ca ou sur votre appli balado préférée. C'est notre dernière émission, comme je vous disais, et je vous laisse sur la musique de Asa Tone.